On continue notre étude sur l'Esprit Saint en trois parties. Et aujourd'hui, on va regarder un petit peu plus le rôle et l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant, en partie du moins. Donc ici, on est au deuxième passage. Et j'ai aussi une petite correction une complément d'information par rapport à ce que j'ai dit la semaine dernière. On a parlé du Saint-Esprit... De qui il était, du fait qu'il faisait partie de la Trinité, qu'il était Dieu, qu'il était une personne. Et en regardant ça, j'ai parlé du fait qu'on pouvait prier le Saint-Esprit. Et je pense qu'il faut que j'apporte une correction ou un complément d'information, parce que je pense que ça peut amener une certaine erreur. Ma pensée, c'était de dire qu'il est comme Dieu le Père, comme Dieu le Fils et le Saint-Esprit, et qu'en tant que personne et en tant que Dieu, il nous entend si on le prie. Mais la Bible est très claire et nous donne un modèle très simple qui est celui de prier le Père au nom du Fils par le Saint-Esprit. Et l'idée, c'est qu'on prie Dieu le Père, et c'est un petit peu, on dit à Dieu le Père... Comme Jésus est mort pour moi et s'est donné et est mort et ressuscité, en son nom, grâce à lui, j'ai accès à toi, Père, et je prie en étant confiant et en demandant à ce que le Saint-Esprit m'inspire dans ce que je vais demander au Père. Et donc, c'est le modèle qu'on a. La Bible ne dit pas qu'il ne faut pas prier le Saint-Esprit ou pas prier Jésus de manière explicite. Mais nous voulons essayer, dans la mesure du possible, de suivre le modèle qui nous est présenté dans la Bible. Et donc, le modèle que nous avons, c'est de prier le Père. On le voit dans la vie de Jésus. On voit quand les disciples lui demandent « Apprends-nous à prier », ils disent « Notre Père, qui êtes aux cieux ». Quand Jésus annonce qu'il va envoyer le Saint-Esprit, ce qu'on a regardé la semaine dernière, il ne dit pas « Je vais aller parler au Saint-Esprit pour qu'il vienne ». Il dit « Je vais demander au Père et je vais l'envoyer ». Dans d'autres passages, il est dit que je vais vous l'envoyer. Mais donc, l'exemple que nous avons, c'est l'exemple de prier le Père. Et il y a beaucoup de versets avec Jésus qui prie. On le voit aussi dans les références avec Paul et Pierre et Jude, notamment. Beaucoup de passages dans les Épîtres qui parlent du fait qu'il prie Dieu le Père de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et donc on veut essayer de rester dans l'exemple biblique, évidemment, et sans que ce soit une règle stricte où on devient légaliste et on s'inquiète trop de ces choses-là, mais on veut suivre l'exemple que la Bible nous donne et la recommandation que la Bible nous donne. Et c'est donc celui de prier, quand nous prions, de prier Dieu le Père. C'est intéressant parce que même dans la Bible, il n'y a pas de référence faite à l'idée de prier à l'Esprit Saint. Et même l'idée de prier à Jésus, c'est quelque chose qui est très rare, ce qui peut être surprenant aussi. Mais l'exemple que nous avons, c'est celui de prier Dieu le Père. Et donc on veut s'y tenir. Et quelques personnes sont venues me voir pour me demander ce que j'en pensais. Et donc je veux me corriger si je dis quelque chose qui nous induit en erreur. Évidemment, je veux être souple et je suis très faillible, effectivement. Donc il y a besoin aussi du corps de Christ pour nous aider les uns les autres à nous corriger et à nous reprendre s'il y a des choses qui sont dites qui peuvent être mal comprises ou mal appliquées. Alors je trouvais que c'était une transition très, très bonne et très appropriée justement dans notre étude, dans le sens où on a regardé qui il était dans le sens de la Trinité, Dieu, une personne. On a parlé un petit peu de pourquoi on s'intéressait au Saint-Esprit. Ceux qui éventuellement n'étaient pas là ou ceux qui n'ont jamais vraiment étudié le sujet, vous pouvez aller regarder sur le site et retrouver l'enseignement audio de la semaine dernière ou d'anciens enseignements et séries par Pierre sur le Saint-Esprit, si ça vous intéresse aussi. Lui avait pris plus de sessions pour couvrir le sujet, donc il y a sans doute des choses en plus que de ce que l'on va étudier. Mais le Saint-Esprit, on n'a pas trop regardé son caractère. Et c'est le Saint-Esprit, donc il est saint. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire là-dessus. Mais il y a aussi l'idée que dans la Trinité, il a un rôle propre. Et c'est quelque chose qui est bon à noter et qui est important, je pense, pour nous aussi à regarder. C'est cette idée que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont égaux, sont Dieu, sont trois personnes qui sont sur un même niveau. Mais quand on regarde leurs interactions et quand on regarde le rôle et quand on regarde ce que la Bible nous présente, ce que Jésus nous présente, on voit qu'ils ont chacun un rôle qui est défini. Et à ce niveau-là, d'une certaine manière, ils ne sont pas complètement égaux. Et on le voit dans comment Jésus en parle. Ils ne sont pas égaux au niveau de leur rôle à jouer. Ils ont chacun leur rôle. Et je pense que c'est intéressant d'y réfléchir et de le noter parce que c'est une présentation de l'idée de l'égalité dans la Bible qui parfois, peut-être dans d'autres situations, peut prêter à discussion. C'est cette idée que nous sommes tous égaux devant le Seigneur, mais que nous avons différents rôles. Et ça peut être au sein, par exemple, d'un couple, avec l'idée de l'homme et de la femme qui ont chacun leur rôle à jouer. On ne parle pas de caricature machiste ou de choses comme ça, mais chacun a son rôle à jouer, même si l'homme et la femme sont égaux devant Dieu, ils ont chacun le rôle que Dieu leur attribue. Et dans l'Église, nous avons tous un rôle à jouer et nous avons différents rôles à jouer et nous allons regarder notamment la semaine prochaine avec le rôle de l'Esprit-Saint dans l'Église, avec les dons qui sont donnés et la manière dont l'Esprit-Saint dirige l'Église. Que nous avons différents rôles, que nous sommes tous égaux, mais que nous sommes appelés à avoir différentes places et positions. Et donc l'Esprit Saint a une place qui est une place, on va dire, de serviteur. Il est humble et il est, d'une certaine manière, ça va avec le texte qu'on a regardé la semaine dernière, qu'on va lire dans un instant, si vous voulez, déjà vous pouvez vous tourner dans Jean 14. Mais l'Esprit-Saint est là pour mettre en avant Dieu le Père et Dieu le Fils, pour glorifier Jésus. Et c'est ce dont Jésus parle dans ces passages. Alors on peut s'y tourner et lire. Alors il commence dans Jean 14, verset 16, « Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. » L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. Si on continue un petit peu en sautant dans le passage, au verset 25, il dit « Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Alors il continue, on passe au chapitre 15, au verset 26. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. Et puis il continue encore dans ce discours, dans le chapitre 16, à partir du verset 12 par exemple, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Prions. Seigneur, merci pour ce temps ensemble. Merci pour cette promesse de nous envoyer ton Saint-Esprit. Je te demande, Père, de nous parler à chacun, de nous enseigner par ton Saint-Esprit, de nous révéler ce que ces choses veulent dire. de nous aider à comprendre le rôle du Saint-Esprit, de nous aider à comprendre comment nous devons dépendre de toi, de Jésus et du Saint-Esprit dans nos vies. Je te remercie pour ta patience envers nous, Seigneur, pour ta grâce, mais aussi pour ce don du Saint-Esprit que tu nous promets est à l'œuvre dans nos vies pour nous révéler et pour nous aider à comprendre tes vérités. Et Seigneur, ce matin, nous te demandons de nous envoyer, de nous remplir de ton Saint-Esprit pour comprendre ces choses. Merci Seigneur pour ce temps ensemble. Nous te remettons ce temps. Amen. Donc le Saint-Esprit, dans la Trinité, il a ce rôle de serviteur, ce rôle un petit peu d'envoyé. On voit dans le passage ici, il est question du défenseur. On va voir que c'est un mot qui signifie aide ou peut-être on pourrait dire assistant. Le mot original serait traduit par avocat avec la base latine, mais l'utilisation que nous en faisons en français n'est peut-être pas forcément le plus adapté, mais c'est l'idée d'une aide. Et il vient pour faire ce que le Père l'envoie faire. Et alors, qu'est-ce qu'il est là pour faire? On va regarder premièrement dans le monde ce qu'il fait, de manière générale, pas dans la vie du croyant ou dans l'Église. Ensuite, on va regarder dans la vie du croyant. Et puis, on va regarder la semaine prochaine comment il travaille dans l'Église, qui est en fait un travail à travers chaque croyant dans l'Église, et notamment avec les dons de l'Esprit, et la manière dont ça marche dans l'Église. Mais commençons avec son travail dans le monde. Et on peut lire ici dans Jean 16, les versets 7 à 11. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et donc ce passage nous donne une explication de ce que l'Esprit Saint fait dans le monde. Dieu l'a envoyé pour être avec nous, pour être une aide en tant que croyant. Mais on voit ici que Jésus dit que le Saint-Esprit est dans le monde pour montrer aux gens leurs besoins de Jésus, leurs problèmes, leur situation vis-à-vis de Dieu et le problème qu'ils ont, le problème du péché dans la vie des hommes. Et peut-être qu'on se dit je le vois pas forcément, ou peut-être peut-être qu'il y en a parmi nous qui ne croient pas en Jésus et qui se disent oui, je le vois pas en train d'essayer de me convaincre ou de discuter avec moi. Mais c'est quelque chose que la Bible, Jésus nous présente comme vrai, et donc nous, en tant que croyants, nous le croyons. Et c'est une influence qui vient et qui, lorsque les gens sont confrontés au message de l'Évangile, c'est le Saint-Esprit qui va le faire travailler dans leur cœur et va leur montrer que c'est vrai et qu'ils ont besoin de ce salut en Jésus. Mais en même temps, il laisse aussi c'est un travail, on va dire, où il laisse la liberté et la volonté à chaque homme face à ça. Et le Saint-Esprit ne va pas forcer l'homme à venir à Jésus, mais il va essayer peut-être de les convaincre, de leur montrer qu'il y a quelque chose. Et après, chaque homme est libre de répondre et de réagir à cette conviction que l'Esprit Saint essaie d'amener. Et c'est, euh, C'est la vérité que Jésus nous présente. Alors il dit le péché, au verset 8, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Au verset 9, il dit « En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Et donc le péché le plus grave, c'est le péché de ne pas croire en Jésus, c'est le péché de refuser le témoignage que l'Esprit Saint apporte dans le monde concernant Jésus, à savoir qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour nos péchés et que nous avons besoin de lui pour être sauvés. Et c'est, je pense aussi, une très bonne explication de la question du blasphème contre le Saint-Esprit, c'est de rejeter le Saint-Esprit et de nier ce qu'il amène et ce qu'il apporte, c'est-à-dire de rejeter Jésus, de rejeter ce témoignage que le Saint-Esprit amène concernant Jésus et de le refuser. Donc il dit en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, il ne croit pas en Jésus. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Ici, je pense que l'Esprit Saint montre que Jésus est la norme. Dieu a accepté Jésus parce que Jésus a vécu la vie qu'il fallait ici sur terre. Et il nous montre que c'est la norme que nous devons atteindre. C'est l'exemple, c'est le standard. Si nous ne sommes pas parfaits comme Jésus l'a été, nous avons un problème. Et la justice de Dieu exige la perfection. Et ensuite, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et on sait que Satan a été jugé à la croix. Et qu'il est encore à l'œuvre dans le monde, mais que c'est un sursis, que le jugement a été prononcé, mais la condamnation n'a pas encore été mise en œuvre de manière pratique. Et là aussi, c'est quelque chose qui doit être prononcé par rapport aux gens qui ne croient pas. Cette idée. Et là aussi, c'est une question peut-être qui revient souvent, c'est cette idée, mais pourquoi est-ce qu'il y a le mal dans le monde? Pourquoi, si Dieu existe, je ne comprends pas, etc. Et Jésus nous dit, Satan a été jugé à la croix, mais il y a quelque chose qui est encore là. Et donc ça, c'est l'œuvre, on va dire, principale du Saint-Esprit dans le monde, c'est-à-dire parmi les non-croyants. Un deuxième point qu'on peut présenter, sur lequel je ne vais pas m'attarder, mais c'est l'idée que la présence du Saint-Esprit dans le monde est en fait un agent qui préserve le monde de la colère de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens 2, les versets 1 à 12, on n'a pas besoin de vous y tourner, vous pouvez le noter ou le retrouver dans ma feuille avec les références, mais il est question du fait qu'il y a quelque chose qui retient le déclenchement vraiment des temps de la fin et notamment de la colère de Dieu vis-à-vis du monde. Et nous croyons que c'est la présence du Saint-Esprit dans le monde et dans l'Église qui retient en quelque sorte et qui fait tarder le temps jusqu'au où Dieu va finalement venir et juger le monde. Il y a énormément de choses qu'on pourrait dire là-dessus, mais on va passer. Si vous avez des questions, évidemment, notez-le, marquez-le. Si ça vous intéresse, on peut en reparler à un autre moment. Donc il y a ces deux ministères dans le monde dont la Bible nous parle. Et maintenant, dans la vie du croyant, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de versets, beaucoup de passages. Je vous invite, si vous avez le temps, si ça vous intéresse, par exemple, à relire le livre des Actes, en surlisant à chaque fois qu'il est question du Saint-Esprit, de voir comment il est à l'œuvre, ou alors de regarder les épîtres de Paul, ou et de surligner à chaque fois qu'il est question du Saint-Esprit, de se dire, tiens, quel est son rôle ici, pourquoi il est mentionné. Moi, quand je lis souvent, je me dis, je passe un petit peu dessus, c'est un petit peu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on le met à la fin, mais on prend pas le temps, comme je disais la semaine dernière, forcément d'y réfléchir. Et donc je vous encourage, si vous avez le temps ou si vous lisez, peut-être de prendre une couleur spéciale et de surligner dans vos Bibles quand il est question du Saint-Esprit. Mais donc on a parlé de ces passages dans Jean 14, 15 et 16. Et Jésus utilise un mot que je vous disais, qui peut être traduit par aide ou par défenseur ou consolateur, quelqu'un qui vient aider, assister. Le mot en grec est parakletos. Là aussi, si vous voulez faire des recherches dessus, vous pouvez regarder et chercher un petit peu plus par rapport à ce mot-là. Mais je pense que le mieux, c'est de penser à quelqu'un qui vient nous aider, quelqu'un qui nous assiste. C'est le début de l'idée. Et on va regarder un petit peu les autres choses qui viennent avec ça. Alors, le Saint-Esprit, il est dans le monde. Et quand nous venons à Jésus, la Bible nous dit qu'il vient habiter en nous. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et là aussi, c'est quelque chose qui est... On dit ça et on se dit d'accord, c'est un petit peu farfelu. Mais la Bible nous présente des vérités spirituelles, on en a déjà parlé, et nous dit de regarder, de comprendre les choses invisibles, de croire ces choses. Et la Bible nous le présente à plusieurs endroits. Alors ici, dans Jean 14, 17, Jésus dit « L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. » Donc ici, l'idée qu'il sera en vous, c'est une annonce. Jésus, au moment où il parle à ses disciples, ce n'est pas encore le moment, mais plus tard, ils vont recevoir le Saint-Esprit qui va venir en eux. Dans Romains 8, verset 9, Paul dit « Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Donc il parle du fait que l'Esprit de Dieu habite en nous. Plus loin, en verset 11, il dit « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous ?» Donc là aussi, il est question du fait que l'Esprit habite en nous. Donc c'est un premier point, le Saint-Esprit habite en nous quand nous croyons en Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur. Et quand il vient habiter en nous, le deuxième point, c'est qu'il vient pour nous sanctifier. C'est-à-dire qu'il vient pour nous rendre comme Jésus. Il vient pour nous changer de l'intérieur, pour devenir comme Jésus. On a dit que Jésus était la norme, était le standard, ce que Dieu exige de nous. Mais quand on le regarde, on se dit « je ne vais pas y arriver ». L'apôtre Paul, dans Romains 7, parle du fait que nous sommes ici sur terre avec une lutte. Nous avons notre chair qui n'est pas transformée, mais la Bible nous dit que quand nous venons à Jésus, nous devenons une nouvelle créature spirituellement, mais nous avons une lutte interne, une sorte de guerre civile entre notre chair et cet esprit qui est rendu à la vie par notre foi en Jésus et par le Saint-Esprit. Et Paul en parle de manière magnifique, donc dans Romains 7, si vous voulez le lire par vous-même, on ne va pas le regarder maintenant, mais il exprime la frustration qu'il a et même le désespoir auquel il arrive quand il se dit « Mon esprit veut faire du bien, je veux suivre la loi de Dieu, je veux faire ce que Dieu me demande, mais je n'y arrive pas, j'ai ma chair qui lutte contre et je suis dans une lutte. » Et j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver et ça m'amène à un certain désespoir parce que j'essaye par moi-même d'y arriver et je n'y arrive pas. Et le chapitre 8 de Romains est magnifique parce qu'il en vient à l'esprit et il dit « Mais en fait, la gloire à Dieu, c'est par l'esprit que je vais arriver à devenir comme il veut et que je vais changer. C'est l'esprit qui va en moi, qui va produire ce que Dieu veut dans ma vie. Et aussi, par sa grâce, il va nous pardonner quand nous n'y arrivons pas, quand nous chutons ou quand nous échouons. Mais il parle de l'esprit comme celui qui nous change. Et on voit il y a d'autres références, dans 2 Corinthiens 3, 18, il est dit « Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et donc on voit, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc l'Esprit Saint vient habiter en nous et l'Esprit Saint travaille en nous pour nous sanctifier, pour nous rendre de plus en plus comme Jésus. Je vous disais qu'on n'a pas eu le temps de s'attarder sur les caractéristiques de l'Esprit Saint, mais je pense qu'ici il est bon de noter que l'Esprit est saint et qu'il s'oppose aux choses de la chair. Et il y a aussi plusieurs passages où Paul reprend des croyants et des églises en leur disant, et c'est une sorte d'équilibre, l'Esprit Saint vient travailler en nous, mais nous avons d'une certaine manière aussi une responsabilité et un rôle à jouer, et nous devons chercher à faire la volonté du Seigneur et pas nous dire, puisque c'est l'Esprit Saint qui est en moi qui va produire ce qu'il faut, moi je vais aller regarder la télé et faire autre chose et puis je changerai. Il ne nous donne pas carte blanche pour dire on fait n'importe quoi et petit à petit je vais devenir plus comme Jésus, et puis si ça vient pas naturellement, l'Esprit Saint a besoin de plus de temps, ou etc etc. Il nous encourage quand même à dire, n'attristez pas le Saint-Esprit, cherchez à faire la volonté du Seigneur, cherchez à prier Dieu, lisez la parole, soyez en communion fraternelle dans l'Église, cherchez à faire sa volonté dans vos vies. Et donc on a quand même cette responsabilité de chercher à le faire, mais nous n'avons pas cette... Nous n'avons pas besoin d'arriver à ce désespoir où on dit j'essaye mais j'y arrive pas. On peut avoir cette paix et cette tranquillité de nous dire je cherche la volonté du Seigneur et Dieu envoie ton Esprit Saint pour me changer vraiment. Change cet aspect-là de ma vie, change cette chose-là que je fais mal, etc. etc. Et donc le Saint-Esprit quand même veut que dans nos vies nous cherchions à être comme Dieu le veut. Et nous pouvons, comme je vous disais, dans Éphésiens 4, 30, il est question du fait qu'on peut attrister l'esprit si nous persistons dans un péché de manière consciente en disant non, je vais continuer à faire ce que je veux, je ne veux pas obéir à Dieu. On va l'attrister et ça va diminuer son influence ou son rôle dans nos vies. Mais donc il vient habiter en nous, il nous sanctifie, c'est-à-dire qu'il nous change, il travaille en nous pour nous changer, pour être comme Jésus. On voit aussi qu'il nous donne la puissance pour être témoins de Jésus. Dans Jean, ce qu'on lisait tout à l'heure, dans Jean 16, il me semble... Il parle du fait qu'il va révéler la gloire de Jésus. C'est dans Jean 15, 26 où il dit « Quand le défenseur sera venu, le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Et on voit aussi dans Acte 1, on saute, j'essaie de vous donner du temps pour ceux qui veulent regarder les versets par eux-mêmes. Jésus, en partant, a dit à ses disciples, allez attendre que le Père envoie ce que je vous ai annoncé. Et dans Acte 1, 8, il est dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc on voit que l'Esprit Saint vient pour témoigner de Jésus, pour montrer Jésus et pour le montrer à travers nous. Et Dieu nous l'envoie pour avoir une puissance pour témoigner de Jésus. Et c'est quelque chose d'important à se rappeler quand on regarde notamment les dons de l'Esprit qu'on va regarder la semaine prochaine, mais c'est cette idée de quel est l'objectif du Saint-Esprit. Et l'objectif, si un des objectifs principaux c'est de témoigner de Jésus, c'est d'annoncer Jésus, alors on doit se dire que les dons et sa présence dans nos vies, une des choses, ça doit être qu'il nous encourage et qu'on témoigne de lui. Si on demande au Père de nous remplir du Saint-Esprit pour pouvoir faire autre chose, c'est pas vraiment l'objectif. L'objectif, c'est d'être témoin de Jésus. Et on voit ici qu'il, le mot qui utilisait puissance dans Actes 1:8, vous recevrez une puissance. Il y a l'idée, c'est le mot dynamos, c'est le mot qui donne dynamite ou dynamique. C'est quelque chose de très fort, et c'est quelque chose aussi qu'on voit dans le livre des Actes, comment les disciples, les apôtres, ont une puissance incroyable dans leur vie pour témoigner de Jésus, pour annoncer Jésus. On voit Pierre qui quelques chapitres avant renie Jésus à une petite fille. Il a même pas assez de courage face à une petite fille de dire qu'il est disciple de Jésus. Et quelques chapitres après, quelques semaines après, on le voit qui se lève devant des milliers de personnes, qui se lève devant des gouverneurs, qui annonce des choses par cette puissance qui est dans leur vie. Et c'est intéressant aussi dans le livre des Actes de noter à chaque fois qu'il prie, qu'ils demandent à Dieu de les remplir et qu'ils sont remplis à nouveau du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, il y a un témoignage fort de qui est Jésus et une avancée de l'Église par de nouvelles personnes qui viennent à Jésus. Donc c'est un autre point important. Dans nos vies, le Saint-Esprit, on l'a vu ici dans ce que Jésus dit dans Jean, il le dit dans plusieurs versets, il va nous enseigner, nous montrer les choses de Dieu, nous faire comprendre la parole de Dieu. Jésus leur dit, il va vous enseigner, il va vous rappeler tout ce que j'ai dit. C'est l'esprit de la vérité. Il va prendre de ce qui est à moi, ce qui est à Jésus, et il va vous l'annoncer. Dans 1 Jean 2, verset 27, il est dit « Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurerez en lui comme elle vous l'a appris. » C'est la question, l'onction ici, c'est l'esprit que vous avez reçu. Dans 1 Corinthiens 2, les versets 13 et 14, il est question... Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et dans le passage avant... on aurait pu lire tout le passage d'1 Corinthiens 2, à partir du verset 9. Mais comme il est écrit, donc c'est 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Nous comprenons les choses de Dieu parce que l'Esprit Saint nous les montre, nous les révèle dans nos cœurs de manière spirituelle. J'en ai parlé un petit peu la semaine dernière de ça, de cette idée que ce que je vous annonce, quelqu'un de non-croyant pourrait venir et lire la parole de Dieu, pourrait vous expliquer, Paul a dit telle chose, Jésus a dit telle chose. Mais ce dont nous avons besoin, c'est de l'Esprit Saint qui nous les révèle de manière spirituelle. Et Jésus nous dit, c'est l'Esprit Saint qui va vous enseigner. Si je me lève ici le dimanche matin, je vous disais, je pensais avoir une correction à faire. Il peut m'arriver de dire des bêtises, des sottises. Mais quand je me lève ici le dimanche matin, je prie, Seigneur, Dieu, envoie ton esprit pour que ce soit ton esprit qui parle dans le cœur de chacune des personnes. C'est ce dont nous avons besoin. Nous sommes tous différents, nous sommes tous à des endroits différents de la vie. Et c'est pour ça aussi qu'un dimanche matin peut être tellement riche, parce que l'Esprit peut révéler les mêmes passages et le même enseignement et parler de manière distincte à chaque personne. Parler à une personne de manière distincte qui a besoin d'entendre une chose et à une autre personne a besoin de quelque chose et l'Esprit travaille en même temps. Et nous prions que ce soit l'Esprit qui travaille parce que nous en avons besoin. Donc il enseigne, il nous révèle les choses de Dieu par la parole. Il nous aide aussi à comprendre, dans cette idée d'enseignement, à comprendre les choses à venir. Dans Jean 16, 13, Jésus dit, il va vous annoncer les choses à venir. Et ça, c'est de manière très simple, c'est peut-être sans tomber dans quelque chose de prophétique au sens futur, au sens quelque chose peut-être de miraculeux. C'est simplement aussi de comprendre les prophéties dans la Bible pour la fin des temps, de nous révéler ce qui est dans Daniel, dans l'Apocalypse, dans Ézéchiel, dans différents passages de la Bible, des choses que Jésus nous dit. C'est l'Esprit Saint qui va aussi nous aider à comprendre ces choses, les choses de la fin des temps, les choses à venir, comme Jésus le dit. Donc c'est un volet de ce que le Saint-Esprit fait dans son enseignement, et Jésus en parle. Jésus aussi, dans ce même verset, Jean 16, 13, dit qu'il vous conduira dans toute la vérité. L'Esprit nous conduit, nous donne du discernement pour savoir ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est faux. Nous aide à savoir comment vivre, à savoir ce que nous devons faire. Parfois, on se dit, mais qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans ma vie? Quelle est sa volonté pour sa vie? Et parfois, on peut être paralysé, on peut être à demander un signe pour quelque chose de spécifique, ce que Dieu peut nous montrer. Mais je pense que Jésus aussi, il nous présente l'idée que Jésus va nous montrer que, d'une certaine manière, il y a parfois une liberté, je pense, dans nos vies, de dire, si ma motivation est bonne et si je suis conduit par l'Esprit dans la vérité, si je suis pas dans l'erreur, si je dis, Dieu, je veux te rendre gloire, je veux vivre ma vie pour toi. Peut-être qu'entre aller en Afrique et travailler quelque part pour aider là-bas, ou travailler ici à enseigner la Bible, ou travailler votre travail peut-être dans le monde, entre guillemets, et être présent dans le monde, sont toutes des options qui sont aussi valables les unes que les autres. Mais là où nous avons besoin d'aide, c'est de savoir, dans chacune de ces circonstances, est-ce que je suis dans le vrai, est-ce que je fais la volonté, est-ce que ma motivation, est-ce que mon caractère, est-ce que qui je suis devant Dieu et ce que Dieu veut. Et après, la forme que ça prend, ça peut être différentes choses. Mais donc l'Esprit nous conduit. Il y a plusieurs versets qui le disent dans Romains 8, 14. Il est dit, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dans Galates 5, 18, il leur dit, cependant, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Dans Galates 5, 25, juste un peu plus loin, il dit, si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Dans 1 Pierre 1, 2, il dit, conformément à la préscience de Dieu, le Père, et conduit à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissant et d'être purifié par le sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc il nous conduit, et ça va un petit peu avec cette idée de nous conformer à l'image de Jésus, cette idée que nous devenons comme Jésus et que nous comprenons ce qui est vrai et faux, ce qui est bon aux yeux de Dieu et ce qui est péché. Alors l'Esprit Saint, dans ce travail de sanctification, dans ce travail de nous conformer, on peut aussi lier l'idée qu'il produit du fruit dans nos vies. C'est le passage dans Galates 5, 22, qui est très connu, qui dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Et ce qu'on voit dans là-dedans, et ce qu'on voit aussi dans Jean, dans les passages, c'est qu'il y a aussi l'idée de demeurer en Christ, d'avoir une relation continue avec Dieu, et que lorsque nous avons cette relation avec Dieu, par la prière, par sa parole, que nous restons, on va dire, dans sa présence, l'Esprit Saint va produire du fruit. Et c'est toute une étude à part entière. C'est difficile de passer là-dessus quand c'est tellement riche, mais cette idée, notamment Jésus dans Jean, parle de cette idée de demeurer en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Cette idée qu'il y a le tronc et il y a le fruit, et c'est une image tellement belle de quelque chose qui se passe de manière naturelle, sans un travail forcé, sans une frustration, mais simplement un fruit naturel qui est bon, qui est riche quand notre relation avec Dieu est comme il doit être. Alors sans forcer, quelque chose qui m'a toujours marqué, j'ai entendu plusieurs enseignements sur cette question des fruits du fruit de l'esprit, et cette question de demeurer en Jésus, c'est cette idée de se dire, est-ce que vous avez déjà entendu un arbre fruitier ou une vigne pousser des cris, des grognements parce qu'ils font de l'effort? Ça se passe naturellement, sans forcer. C'est quelque chose qui est une image qu'on doit retenir. C'est que, en demeurant en Dieu, en restant en communion avec lui par la prière, par la parole, et en faisant confiance que Dieu est à l'œuvre dans nos vies par le Saint-Esprit, qu'il travaille pour produire ce fruit dans nos vies. On va regarder la semaine prochaine, il nous fait aussi des dons spirituels. Je le laisse en suspens, si vous êtes intéressé, venez la semaine prochaine. Le Saint-Esprit, il nous est dit dans Romains 8, là aussi, qu'il intercède pour nous. Et c'est intéressant de faire le lien avec ce que je disais au tout début, avec l'idée que la Bible, le Nouveau Testament nous dit que Jésus intercède pour nous et que le Saint-Esprit intercède pour nous. Et c'est beau d'une certaine manière de voir qu'il nous montre l'exemple. Eux intercèdent au Père pour nous, et que ça nous donne aussi l'exemple de dire on doit prier Dieu le Père. Donc on voit qu'il fait beaucoup de choses. Le dernier point, c'est que l'Esprit Saint, peut-être, qu'il est important de noter, la Bible nous dit que l'Esprit Saint nous scelle, que c'est un sceau sur nos vies qui montre en quelque sorte que nous appartenons à Dieu. Dans Éphésiens 1, 13, il est dit: « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. » Dans 2 Corinthiens 1, 22, il est dit: « Il nous a aussi marqués de son empreinte et a mis l'Esprit comme un gage dans notre cœur. » Dans Éphésiens 15, 30, le passage où il est question de ne pas attrister le Saint-Esprit, il dit: « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. » Dans Éphésiens 1, les versets 13 à 14 aussi, il en parle, donc ce qu'on a lu au début, j'y reviens. Il dit: « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Et on pourrait le lier à l'idée de peut-être le fait que nous sommes enfants de Dieu. Dans Romains 8, les versets 15 et 16, il dit: « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Et donc l'Esprit Saint, est une marque de notre appartenance à Dieu. On pourrait dire le changement qui doit être dans nos vies quand nous venons à Jésus est une marque et nous montre s'il y a des choses en vous, si vous vous dites tiens je m'intéresse à la Bible ou j'ai envie de lire la Bible ou même vous vous dites j'ai vraiment envie d'aller à l'église ou vous avez envie de témoigner auprès de gens qui ne croient pas, vous voyez des choses dans votre vie qui ne sont pas bonnes et qui doivent changer. Si ce genre de choses sont dans votre vie, c'est une marque de la présence du Saint-Esprit, une marque que vous êtes scellé, que vous appartenez à Dieu. C'est les principaux points sur lesquels je voulais venir en tant que sur les choses que l'Esprit Saint fait. Je voulais m'attarder sur l'idée de la relation avec le Saint-Esprit et comment la Bible nous le présente, avec l'idée qu'il y a trois types de relations avec le Saint-Esprit. Et quand on regarde de près les textes et quand on regarde les textes originaux, parfois les traductions sont un petit peu plus libres et on voit l'Esprit Saint est avec nous et en nous, on est rempli du Saint-Esprit, l'Esprit Saint est venu sur eux et on fait un peu un peu une bouillie de tout ça. On se dit bon, il y a le Saint-Esprit, mais comment ça se passe? Et en fait, si on regarde de manière plus systématique, on voit qu'il y a trois manières dont l'Esprit Saint interagit avec nous. L'Esprit Saint qui est près de nous, c'est le mot qui est utilisé en grec, c'est le mot para. On peut voir que c'est l'Esprit Saint qui est présent et actif dans le monde. On voit Jésus qui le dit quand il dit « L'Esprit Saint sera avec vous ». Le deuxième mot qui est utilisé, c'est l'idée d'être en nous, en grec, et cette idée que quand nous venons à Jésus, l'Esprit Saint vient habiter en nous, dans nos vies. Je ne m'y attarde pas pour lire tous les passages, mais il y a énormément de passages dans le Nouveau Testament, dans Jean 14, 17. Dans Romains 8, il y en a plusieurs. Dans 1 Corinthiens 6, 19, 1 Corinthiens 12, 13. C'est pas une liste exhaustive. Mais il y a cette idée que la relation en nous, c'est la deuxième manière dont l'Esprit Saint interagit avec nous. Et puis, il y a la troisième relation, c'est l'idée de venir sur nous. Et le mot qui est utilisé en grec, c'est « épi ». Et c'est ce que nous voyons souvent dans le Nouveau Testament quand il est question de l'esprit, ils sont remplis du Saint-Esprit ou quand il est dit que l'Esprit Saint est venu sur eux. Et c'est cette idée que il y a une puissance qui vient sur la vie de la personne pour témoigner de Jésus avec puissance. Et vous pouvez regarder dans Actes 1, 8, dans Jean 7, 38, dans Actes 1, 5 et 1, 8, dans Matthieu 3, les versets 11 et 12, dans Éphésiens 5, verset 18, il y en a d'autres. Et c'est intéressant, c'est bien de le comprendre pour que quand vous lisiez la parole, vous ne soyez pas un peu en mal à l'aise face à ces choses, pour que vous compreniez. Mais on le voit dans plusieurs choses. Tout d'abord, et c'est très intéressant de penser à la vie de Jésus. Jésus commence son ministère après quel événement ? Quand il est baptisé et que la Bible nous dit que l'Esprit Saint vient sur lui et qu'à ce moment-là, il a son ministère et c'est cette puissance qui vient. Alors que c'est très intéressant, là aussi, l'exemple biblique, de se dire que Jésus était Dieu avant. C'est pas au moment où il reçoit l'Esprit Saint qu'il devient Dieu. Il est Dieu, Dieu le Fils, mais son ministère commence à ce moment-là. Donc c'est quelque chose sur laquelle on peut réfléchir et on le voit aussi dans la vie des disciples. Dans Jean 20, 22, Il y a le passage qui nous dit « Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Et en fait, là, quand on regarde le mot grec, on voit qu'il y a plutôt l'idée de souffler en eux. Et donc moi, je crois que c'est l'idée que Jésus leur donne l'Esprit en eux et qu'à ce moment-là, ils sont sauvés, qu'ils ont l'Esprit Saint en eux. Mais Jésus, quand même, va leur dire « Maintenant, attendez le Père et priez-le. Je vais vous envoyer l'Esprit Saint et attendez cette puissance. » Et c'est après ce moment-là qu'ils ont la puissance de témoigner. Et donc, on voit qu'il y a l'Esprit Saint en eux quand ils sont sauvés, mais qu'ils ont quand même besoin de cette puissance qui vienne sur eux pour témoigner de Jésus, pour avoir cette puissance dans ce qu'ils font. Et on peut aussi noter, c'est très intéressant de regarder l'Ancien Testament et de voir que dans l'Ancien Testament, quand on regarde, il y a des références faites à parfois l'Esprit de Dieu vient sur lui et il chante dans David ou Saül ou certains des prophètes. Et dans l'Ancien Testament, on trouve seulement l'idée de l'Esprit qui est prêt. Para et l'esprit qui est sûr, épi. Mais on n'a pas l'idée de l'esprit en. Et ça va de pair avec ce que nous voyons dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire que c'est la foi en Jésus-Christ et le salut que nous recevons grâce à Jésus-Christ, son sacrifice et sa résurrection, que nous pouvons avoir ce don spécial d'avoir l'Esprit Saint en nous. Alors, quelques réflexions pour finir. L'Esprit Saint est un don que Dieu veut nous faire. Je pense, comme je vous ai dit, que c'est quelque chose qui est dans nos vies à partir du moment où nous croyons en lui. Mais qu'il y a aussi ce don de cette puissance qui vient sur nos vies pour que nous puissions accomplir sa volonté. Et parfois, on peut tomber dans un piège, je pense, de l'ennemi et de se dire « j'en suis pas digne » ou « il faut que je me débarrasse de tout péché » ou « que je sois déjà parfait avant que le Seigneur puisse vraiment m'utiliser comme ça ». À distinguer du fait que l'Esprit Saint veut que nous fassions des efforts pour vivre comme il le veut, mais ça, notre conscience peut nous, chacun d'entre nous savons là où nous en sommes. Mais Dieu veut nous donner l'Esprit Saint à chacun sur nos vies, une puissance spéciale pour témoigner, pour accomplir sa volonté dans nos vies et autour de nous, dans le monde. On va voir que c'est ce qui permet, et c'est comme ça que Dieu agit à travers l'Église, à travers chaque croyant qui reçoit cet esprit et qui témoigne. Mais on n'a pas besoin de mériter ou de faire quelque chose pour gagner cette puissance du Saint-Esprit. On a besoin de le demander et de l'accepter par la foi. On en avait parlé la semaine dernière dans Luc 1, 13, cette question du Père Céleste qui donne l'Esprit Saint. « Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Et dans Actes 2, 38, Pierre qui enseigne à des personnes qui sont au moment où il enseigne, où il commence son enseignement, ne sont pas encore sauvés, et il leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et l'ennemi veut nous en empêcher parce que c'est comme ça que Dieu peut agir autour de nous dans notre entourage pour atteindre les gens par notre témoignage. Et nous devons donc simplement le demander au Seigneur et le croire qu'il nous le donne par la foi. On en parlera peut-être un petit peu la semaine prochaine. Il peut, si on prie le Seigneur, Dieu le Père, donne-moi, remplis-moi de ton Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne sur moi. Il peut y avoir, on le voit dans le Nouveau Testament, des manifestations un peu incroyables, miraculeuses, mais ça peut aussi être des choses pas du tout visibles. Ça peut être simplement, peut-être vous retournez au travail et vous vous dites, tiens, j'ai vraiment envie de parler à cette personne de Jésus aujourd'hui. Peut-être qu'il y a un changement, peut-être qu'il y a un péché avec lequel vous n'aurez pas un problème. Peut-être que quelque chose changera dans votre vie qui ne soit pas visible de manière miraculeuse maintenant. Mais c'est un cadeau de Dieu à nous tous en tant que croyants. Et je pense que nous devons l'accepter. Je sais que moi, j'en ai besoin. Et je pense que nous, nous en avons besoin. Et Hébreux 11.1 nous dit « Alors la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc on peut prier le Seigneur, « Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. » Et c'est d'ailleurs, Paul nous dit « Soyez continuellement remplis de l'Esprit-Saint. » De manière continue, c'est quelque chose qu'on peut demander et redemander. Donc je nous propose ce matin de prier pour chacun, peut-être si vous n'avez pas le sentiment d'avoir prié pour ça, on n'a pas fait toute l'étude. Il y a dans le Nouveau Testament, on voit différentes manières avec l'imposition des mains, par la prière, par différentes choses. Mais je pense simplement qu'en priant et en l'acceptant par la foi, Dieu va nous donner son Saint-Esprit pour être ses témoins, pour faire sa volonté, pour vivre comme il le veut. Je propose qu'on se lève et je vais prier pour nous. Pour qu'on reçoive chacun son esprit. Ça peut être quelque chose peut-être où on peut être un peu inquiet parce qu'on a peut-être vu des choses où on se dit c'est un peu bizarre, où on a lu le Nouveau Testament en se disant c'est un peu bizarre, mais j'en ai parlé la semaine dernière, c'est quelque chose que Dieu veut de naturel pour nos vies. Et si nous croyons en Jésus, nous pouvons l'accepter. Peut-être une parenthèse, pendant que nous sommes tous debout, vous pouvez vous étirer. Si vous n'êtes pas croyant, si vous ne croyez pas en Jésus, mais si ce message vous vous dites tiens c'est quelque chose qui me parle, vous pouvez venir m'en parler ou parler à Pierre. Mais je vous encourage à répondre à je pense le Saint-Esprit qui est avec vous en train de vous montrer, en train de vous convaincre que vous avez besoin de Jésus. Et de le prier, de l'accepter dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur, parce que vous en avez besoin. Mais maintenant, je vais prier pour nous croyants que le Seigneur nous remplisse. Dieu, Père céleste, notre bon Père, tu es bon envers nous et tu nous donnes de bonnes choses, Seigneur, quand nous venons à toi, quand nous te demandons, et nous voyons les exemples dans ta parole de Jésus qui commence son ministère quand l'Esprit vient sur lui, et nous voyons aussi les disciples et l'Église du premier siècle, Seigneur, qui avait une puissance incroyable pour atteindre le monde. Et c'était pas quelque chose d'intrinsèque, c'était pas leur qualité, Seigneur, mais c'était toi, par la puissance de ton Saint-Esprit dans leur vie, qui agit et qui peut agir aujourd'hui dans notre monde comme à l'époque. Et Seigneur, nous te demandons de nous remplir à nouveau ce matin. Pour ceux qui n'en ont pas fait l'expérience, qui n'ont jamais prié pour être remplis du Saint-Esprit, Seigneur, je prie que tu les remplisses ce matin du Saint-Esprit de manière nouvelle. Que ce soit quelque chose de beau et qui leur permette de témoigner avec puissance de qui tu es, Seigneur. Qu'ils voient ce changement, qu'ils voient cette puissance à l'œuvre dans leur vie, Seigneur. Et pour nous, Seigneur, qui l'avons déjà reçu, qui en avons déjà fait l'expérience, qui l'avons déjà prié, Seigneur, nous avons besoin d'être à nouveau remplis, continuellement rempli de ton Saint-Esprit, Seigneur, que tu nous l'envoies, qu'il vienne sur nous et que nous puissions témoigner de toi, avoir du zèle pour toi. Seigneur, on peut rien faire, on peut pas y arriver. Mais on te rend grâce, Père, parce que par ton Fils, par son sacrifice, Par sa résurrection, nous pouvons être sauvés, avoir le Saint-Esprit qui vient en nous, qui restaure notre relation avec toi. Et nous pouvons en plus avoir cette puissance pour témoigner, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous si nous n'avons pas témoigné, si nous n'avons pas fait les choses que tu veux que nous fassions, Seigneur. Et nous te prions de faire de nous une église qui témoigne de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Que ce soit notre souhait d'obéir à ton commandement, de témoigner de toi et de faire des disciples. Merci Dieu pour cette étude, merci pour ce temps ensemble, merci pour l'incroyable richesse de tout ce que tu as prévu, de tout ton plan pour chacun de nos vies, pour nos vies en tant qu'Église, pour l'Église dans le monde, Seigneur, pour l'histoire de l'Église et pour la suite des événements et le futur du monde, Seigneur. Tu es si bon, Seigneur. Sois glorifié ce matin dans nos vies, sois présent ici. Et merci pour cette étude, Seigneur. Continue de nous parler dimanche prochain aussi, Seigneur, cette semaine. En ton nom, nous prions. Amen.